RFI, grand reportage. Charlotte Hydrac.
Grand reportage nous emmène aujourd'hui dans le nord de l'Irak, où depuis la fin de la guerre, des centaines de mineurs accusés d'appartenance à l'organisation État islamique commencent à sortir de prison. Parmi eux, nombreux sont ceux qui disent avoir été condamnés à tort après des aveux obtenus sous la torture, des interrogatoires menés dans la province autonome du Kurdistan irakien par les services de sécurité kurdes. Depuis leur libération, ces jeunes sont réfugiés dans des camps sans perspective de retour chez leur famille, livrés à eux-mêmes, libres mais toujours prisonniers. Irak, le calvaire des enfants soupçonnés de terrorisme. Grand reportage, signé Noé Pignède.
Salah Haddin, Azeb, Moualid 98,
je suis né en 1998. J'ai fui mon village contrôlé par Daesh en octobre 2016. J'ai été condamné pour appartenance à l'État islamique à 2 ans de prison et incarcéré dans un établissement pour mineurs. Quelqu'un de mon quartier, qui me déteste, m'avait dénoncé en disant que j'étais ami avec des salafistes. Ils m'ont emmené à Erbil, la capitale du Kurdistan, pour m'interroger. La torture était très violente, l'interrogatoire était terrible. Je n'ai pas tenu. J'ai avoué alors que je n'étais pas membre de Daesh. La torture m'a poussé à dire que j'étais djihadiste.
Le garçon que vous venez d'entendre vit dans un camp de déplacés du nord de l'Irak. Nous ne donnerons ni son nom, ni l'endroit exact où il se trouve. Les jeunes comme lui restent menacés par les services de sécurité irakiens et kurdes. Il nous reçoit dans une petite pièce au mur gris. Un simple poêle réchauffe la chambre où s'engouffrent les courants d'air. Chaque soir, ils sont une dizaine à dormir côte à côte, entassés sur des matelas à même le sol. Impossible pour eux de retourner vivre dans leur famille en Irak fédéral, car ils risquent d'être à nouveau arrêtés. Leur peine, effectuée au Kurdistan, n'est pour l'instant pas reconnue par la justice de Bagdad.
Mon procès a été très rapide. J'avais un avocat payé par la Croix-Rouge. Le juge kurde m'a dit « Vous êtes accusé de terrorisme ». Je n'ai pas répondu. Qu'on nie ou qu'on avoue, de toute façon, on reçoit la même peine. Et puis, j'avais avoué sous la torture que j'étais membre de Daesh. C'était écrit dans mon procès verbal. J'ai été jugé sur ces aveux. Évidemment, j'ai dit au juge que je les avais faits sous la torture, mais ça n'a rien changé. Il m'a dit d'attendre dehors pour le délibérer, et quand je suis rentré dans la salle d'audience, il m'a condamné. Depuis ma sortie, je vis ici, en marge, avec les autres repris de justice. Tous les autres habitants du camp nous fuient. Ils disent que nous sommes des terroristes. Certains d'entre nous étaient djihadistes, bien sûr. D'autres étaient juste proches de l'organisation ou avaient des amis, parfois des membres de leur famille, qui participaient à l'État islamique. Il y a toutes sortes de gens ici, des gars condamnés à tort, des combattants repentis, des soldats qui se sont battus jusqu'au bout aux côtés de l'État islamique. Certains n'ont pas totalement renié l'idéologie de Daesh. D'autres disent que oui, mais bon, on ne sait jamais vraiment ce qu'il se passe dans la tête des gens. Surtout que nous sommes enfermés. On tourne en rond comme des bêtes en cage. Moi, de ne pas avoir le droit d'être avec ma mère, de ne pas entendre sa voix, ça me donne l'impression d'être mort.
À côté de lui dans la chambre, un autre garçon est en train de jouer sur son téléphone portable. Ancien enfant soldat, il vient tout juste de sortir de prison. Il a lui aussi été condamné pour terrorisme par un tribunal kurde. Le garçon admet avoir rejoint Daesh l'année de ses 13 ans.
J'ai été arrêté par les forces de sécurité kurdes qui m'ont incarcéré à Erbil pour terrorisme. Et c'était vrai. Quand les djihadistes ont envahi ma ville, tout allait bien. Je vivais avec ma famille. Bien sûr, Daesh était un peu extrémiste, mais je n'avais pas de quoi me plaindre. J'avais un toit et à manger. Daesh était devenu une sorte de gouvernement et nous étions en sécurité avec eux, du moins au début. J'ai rejoint Daesh parce que ça avait l'air amusant, c'était excitant. Je voyais mes amis les rejoindre, donc ça m'a motivé. Je voulais m'amuser avec eux. Ils disaient que si je rejoignais Daesh, j'aurais une femme, une voiture, de l'argent. Mais quand j'ai commencé le camp d'entraînement, c'est devenu dur. On courait, on faisait des pompes, ils nous apprenaient à utiliser une kalachnikov. En plus de ça, ils étaient violents, ils nous battaient. Alors je me suis enfui. Malheureusement, ils m'ont rattrapé. J'étais en prison et torturé. Ils ont fini par me relâcher et j'ai enfin réussi à quitter le califat.
Et donc, une fois que vous avez été relâché par Daesh, vous avez fui du côté gouvernemental pour chercher une protection. Et au lieu de ça, vous avez été jeté en prison à nouveau.
Tous ceux qui ont rejoint l'État islamique ont été punis. Moi, j'ai fait une erreur. J'ai participé au camp d'entraînement de Daesh. Donc pour ça, je méritais d'être emprisonné et torturé. C'était ma punition. Et je vous assure que j'ai eu de la chance d'être attrapé par les Kurdes. Car à côté des prisons irakiennes, les leurs sont des jardins d'enfants. Si j'avais été attrapé par l'armée irakienne, ça aurait été bien pire. Je connais des gens de mon âge qui ont pris des peines de 15 ans dans les tribunaux irakiens. Moi, j'ai été condamné à 2 ans seulement. Alors oui, ils m'ont torturé, mais c'est normal, ça marche comme ça ici. Ils ne vont pas nous chatouiller. S'ils ne pratiquaient pas la torture, personne n'avouerait avoir fait partie de Daesh. S'ils ne m'avaient pas torturé, je n'aurais jamais avoué.
Donc pour vous, c'était normal d'être torturé?
J'ai rejoint Daesh, donc oui, je méritais d'être torturé.
Mais maintenant, vous avez payé, vous avez été torturé, ensuite vous avez été en prison, et pourtant vous êtes toujours bloqué dans ce camp. Est-ce que vous pensez que vous allez en sortir un jour ?
Je pense que ça n'arrivera jamais, non. Nous avons beaucoup de problèmes tribaux dans ma région. Les gens se détestent et ils me détestent pour ce que j'ai fait. Si je rentre, ceux qui ont perdu un fils, tué par Daesh, voudront se venger. J'aimerais juste pouvoir retrouver ma famille un jour, que nous soyons à nouveau réunis. Mais pour ça, il faut que le gouvernement irakien reconnaisse que j'ai effectué ma peine au Kurdistan et que je suis un homme libre. Pour l'instant, si je rentre, ils me mettront en prison pour 10 ans.
Donc vous êtes là, habité à 5, dans une chambre, avec des autres garçons qui sont comme vous, qui faisaient partie de Daesh. Vous n'avez pas le droit d'aller à l'école, vous n'avez pas le droit non plus de rejoindre votre famille. Est-ce que vous avez encore de l'espoir pour le futur ?
Mon avenir est foutu, rien ni personne ne pourra me le rendre. C'est fini.
Il est presque 13h, les garçons nous invitent à partager leur déjeuner. Des pommes de terre, du riz, des tomates, le même repas tous les jours.
Ici, on nous donne à manger seulement une fois par jour. Pour le reste, on doit se débrouiller tout seul. Nous n'avons pas d'argent. Moi, je n'ai même plus de quoi acheter du crédit pour appeler nos parents. Ça fait 3 ans que je ne les ai pas vus. Comment est-ce que je suis supposé survivre ?
Un autre garçon tient à nous raconter son histoire. Comme ses deux amis, il sort de prison mais lui n'a jamais avoué avoir fait partie de Daesh. Il a été innocenté par le tribunal d'Erbil. Pourtant, il vit enfermé ici comme les autres.
Nous avons risqué nos vies pour venir jusqu'au Kurdistan avec mon frère. Nous avons marché 13 heures pour échapper à Daesh et rejoindre les territoires contrôlés par les Peshmerga. Si les djihadistes nous avaient attrapés, ils nous auraient exécutés. Nous pensions que les Kurdes respectaient les droits de l'homme. Et c'est pour ça que nous voulions rejoindre leur territoire. Mais en arrivant, ils nous ont torturés, mon frère et moi. Ils voulaient des confessions, que l'on dise qu'on était membre de Daesh. Ils nous ont battus encore et encore. Moi, ils m'ont déboîté l'épaule. Mais je n'étais pas djihadiste, donc je n'avais rien à avouer. Et j'ai réussi à ne rien avouer. Mon grand frère, lui, n'a pas tenu. Il était très faible. Ils l'ont torturé 15 jours de suite. Il lui disait, « Dis que tu es djihadiste, que tu as rejoint Daesh. Ne serait-ce qu'une heure et nous arrêterons. » Il l'avait pendu par les bras, les jambes écartées. Il le violait avec un bâton et le battait encore et encore. Jusqu'à ce que la barre en plastique se brise. Alors, il finit par passer aux aveux et a été condamné. Moi, les Kurdes m'ont torturé avec la technique du scorpion. J'avais les mains attachées dans le dos, l'une par-dessus l'épaule et l'autre par en bas pour me cambrer le dos. Ensuite, ils m'enfonçaient un tuyau dans l'anus. Et puis, il y avait la torture psychologique. Ils nous bandaient les yeux avec un sac en plastique sur la tête et nous mettaient dans une pièce tellement minuscule que nos jambes étaient collées à notre visage. Avec ce sac sur la tête, vous n'avez plus d'air et vous vous sentez comme un vrai criminel. Vous vous sentez comme Daesh.
Et donc, malgré le fait que vous n'avez rien avoué, ils vous ont quand même mis en prison.
Oui,
j'ai attendu un an et demi avant de passer devant le juge. J'ai eu deux audiences. La première, j'ai refusé de m'y présenter car ma famille n'était pas présente. Je n'avais pas le courage. Mais pour la seconde, mes parents ont pu venir témoigner. Ils ont dit que je n'étais pas un djihadiste. J'ai clamé mon innocence et juré que je n'avais jamais fait partie de Daesh. J'ai été innocenté. Mais j'ai dû attendre encore 6 mois pour être relâché. Au total, j'ai fait 2 ans de prison pour rien. Et maintenant, je suis toujours bloqué dans ce camp. Il faut que le gouvernement irakien reconnaisse mon innocence. Je ne peux pas être mis en prison 2 fois pour quelque chose que je n'ai pas commis, c'est insensé. J'ai été mis en prison au Kurdistan. Et maintenant, ils veulent me remettre en prison en Irak. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer chez moi.
Est-ce que vous avez encore l'espoir de retourner un jour chez vous ?
J'ai toujours un espoir, oui. J'espère que la situation va s'améliorer, que le gouvernement va nous entendre et reconnaître qu'on est innocent. Je prie pour qu'on puisse retrouver nos familles. J'avais des rêves, je voulais finir l'école, avoir une vie normale, un travail. Mais depuis Daesh, tout ça est parti en fumée. Et même si je sors un jour de ce camp, je crois que j'essaierai de quitter le pays. Vous savez, moi, je n'étais pas djihadiste, mais comprenez bien quelque chose. Beaucoup de gens ici ont rejoint Daesh parce qu'ils avaient faim ou parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Pas par croyance ni par idéologie. Ils se sont engagés pour gagner leur vie, pour survivre. Ce ne sont pas des cas isolés. Aujourd'hui, tout le monde paye leurs erreurs. À Bagdad, à Erbil et dans tout l'Irak.
Des condamnations sur de simples témoignages, des procès où la dénonciation d'un voisin a souvent valeur de preuve. Dans les tribunaux irakiens et kurdes, les condamnations pour terrorisme de mineurs s'accumulent. Beaucoup disent avoir été torturés lors des interrogatoires. Des accusations qui mettent le gouvernement du Kurdistan dans l'embarras. L'oligarchie familiale au pouvoir joue depuis longtemps la carte de la démocratie et du respect des droits de l'homme.
Habibi, assalam.
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 Dindar Zebari. Nous avons rendez-vous avec Dindar Zebari. Ce haut conseiller du gouvernement kurde réfute les témoignages que vous venez d'entendre.
Hello.
Hello.
I'm sorry to keep you.
No problem.
I was a bit busy, please.
KOG authorities and relevant security departments. Has no need or has no interest.
Le gouvernement régional du Kurdistan et ses services de sécurité n'ont aucun intérêt à obtenir des confessions par la torture. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons déjà arrêté des milliers de djihadistes. Et si vous regardez les chiffres, nous sommes débordés par les prisonniers membres de Daesh. Tous se sont rendus à nos forces de sécurité en avouant qu'ils étaient des combattants de l'État islamique.
And they have confessed when they have submitted themselves that they are ISIL fighters. So no need for any kind of investigation or integration.
Nous n'avons même pas eu besoin d'enquêter ni de les torturer. Quel intérêt aurions-nous à torturer 20 ou 30 enfants pour leur faire dire qu'ils étaient membres de Daesh quand nous avons déjà des milliers de combattants qui ont avoué?
Pourtant, il y a beaucoup de témoignages qui s'accumulent. Il y a des rapports de Human Rights Watch qui racontent que vos services de sécurité pratiquent la torture. Est-ce que votre gouvernement a déjà enquêté sur les accusations ?
Not in terms of the Daesh terrorist detainees. Throughout the last many years, there were cases.
Pas dans des affaires de détenus djihadistes, mais c'est déjà arrivé, oui. Et lorsque c'était avéré, les coupables ont été arrêtés, transférés dans d'autres administrations. Certains ont même été démis de leurs fonctions.
And for the process of claiming the torture, there is a process. One, there must be a medical report. Second, there must be evidence.
Mais pour prouver qu'il y a eu des tortures, il y a une procédure. Tout d'abord, il faut un rapport médical, ensuite il faut des preuves et un témoignage devant le juge. Et enfin, il faut une plainte déposée devant la justice kurde, la Croix-Rouge internationale ou les Nations Unies. Aujourd'hui, je n'ai aucun rapport médical, aucune plainte déposée et rien de la part de ces organisations internationales. Donnez-moi une seule ONG, mis à part Human Rights Watch, qui dit que nous pratiquons la torture.
Give me one single organization, apart from Human Rights Watch, that has claimed there was a torture.
De son côté, l'ONG maintient ses allégations. Selon Belkis Willi, représentante de cette organisation de défense des droits de l'homme en Irak, le gouvernement kurde empêche délibérément ses mineurs de porter plainte.
So the kids that we talked to, quite a few of them did tell the judge that they had been tortured.
Parmi les enfants que nous avons rencontrés, beaucoup ont dit au juge qu'ils avaient été torturés. Mais à chaque fois, celui-ci a simplement ignoré ces accusations et a poursuivi la procédure. La plupart de ces jeunes n'ont jamais eu d'aide juridique. La procédure est en langue kurde. Ces garçons ne parlent souvent que l'arabe. S'il y avait eu un avocat dans la pièce, ils auraient pu demander au juge d'enquêter sur les accusations de torture. Mais malheureusement, dans la grande majorité des cas, ces garçons ne savent même pas qu'ils ont droit à un avocat.
Mais donc en fait, le procès, il est en kurde, mais les enfants qui sont jugés, eux, ils ne parlent qu'arabe. Est-ce que du coup, on peut parler d'un procès équitable ?
Les juges s'adressent aux enfants en arabe, mais tout le reste, tout ce qui se déroule dans la salle d'audience est en kurde. Et il n'y a pas de traducteur prévu pour que la défense suive le procès correctement. Il y a énormément de raisons qui nous poussent à dire que ce ne sont pas des procès équitables. La première, c'est que les accusés n'ont pas droit à une défense digne de ce nom. La seconde, c'est que normalement, ils doivent voir un juge dans les 24 heures, mais que ce délai n'est jamais respecté. Ça prend des jours. Et enfin, lorsqu'il y a des poursuites engagées, la seule preuve qui est utilisée est un aveu obtenu bien souvent sous la torture. Donc non, ce ne sont pas des procès équitables.
Mais pourquoi les services de sécurité, ils les torturent selon vous ?
En Irak, comme dans la plupart des pays du Moyen-Orient, le système judiciaire est basé sur les aveux obtenus lors des interrogatoires. Et bien souvent, les enquêteurs doivent obtenir ces aveux avant même que le suspect ne soit présenté à la cour. Donc, ils vont le garder des jours, parfois des semaines, jusqu'à ce qu'il avoue. Dans ce type de système judiciaire, basé sur des aveux, nous constatons très souvent des cas de torture, car les enquêteurs n'ont aucun autre moyen d'instruire le dossier. Si une personne n'était pas membre de Daesh, la seule façon de lui faire dire qu'elle l'était est de la torturer. Beaucoup des mineurs que nous avons rencontrés décrivent des interrogatoires où les forces de sécurité kurdes les torturent, puis négocient les aveux avec eux. Ils les battent en leur disant « Avoue que tu as fait partie de Daesh. Dis-nous que tu les as rejoints au moins un an. » Et du coup, le garçon dit « Bon, je n'étais pas djihadiste, mais disons que je l'ai été pendant un mois. » Et ils finissent par se mettre d'accord sur une durée pour que les tortures cessent.
Il y a beaucoup de ces enfants qui ont été libérés, ils sont maintenant dans des camps de réfugiés, ils sont au Kurdistan, ils sont en Irak, mais ils ne peuvent pas sortir du camp. Juridiquement, ils sont libres, mais dans les faits, en fait, ils sont toujours en prison.
So the difficulty that you have in Iraq is that you have two legal systems. You have one in the Kurdistan region.
Le problème ici, c'est que vous avez deux systèmes judiciaires, un au Kurdistan et un en Irak fédéral. Malheureusement, ces deux systèmes ne se reconnaissent pas vraiment. Le résultat, c'est que si vous avez quelqu'un de condamné par affiliation à l'État islamique par les Kurdes, la personne purge sa peine, est libérée, mais s'il souhaite retourner en Irak fédéral, il risque d'être arrêté à nouveau par l'armée irakienne ou une milice qui contrôle la région. J'ai rencontré un jeune garçon qui avait été relâché par les Kurdes sans avoir été inculpé, qui est rentré chez lui en Irak et a été arrêté à nouveau. Il a été jeté en prison et brutalement torturé à Bagdad. Après plusieurs mois, il a enfin pu voir un juge qui l'a à nouveau innocenté. Mais maintenant, il reste chez lui et refuse de retourner à l'école car il a peur d'être arrêté une nouvelle fois.
He went back home and now he sits in his house too scared to go to school because he's worried he's going to be arrested again.
Selon l'association, 1500 mineurs condamnés pour appartenance à l'État islamique seraient encore détenus dans les prisons irakiennes et kurdes. À leur sortie, ils seront transférés dans des camps, prisons à ciel ouvert où ces garçons, endoctrinés par Daesh, restent enfermés tous ensemble. Rejetés par leur communauté, ignorés par l'État, éternels coupables d'une société fracturée, libres, mais toujours prisonniers. Calvaire des enfants soupçonnés de terrorisme, c'était un grand reportage de Noé Pignède. Réalisation Sophie Janin.